Vous êtes dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5 et comme tous les mardis, c'est les copines d'AnimaFac qui nous rejoignent. Salut Jade, salut Madeline.
Salut, salut.
Bonjour, on est les copines d'AnimaFac.
De qui êtes-vous venue nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est venu vous parler d'Oscar et de Rachel qui font partie de la HUT, l'association des historiens de l'Université de Tours. J'ai retenu l'acronyme. J'en suis très fière, ça n'arrive pas tout le temps.
Bah du coup, bonjour Oscar, bonjour Rachel.
Bonjour AnimaFac.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Bah les femmes d'abord.
Ok. Alors moi je suis Rachel. Dans la HUT, je fais juste partie du CA. Mais je sais pas trop quoi présenter.
C'est moi qui rêve ou t'as failli dire dans AnimaFac ?
Ouais, je suis à l'AnimaFac, tu sais pas encore. Mais... L'année prochaine, c'est mon service civique.
Ça y est, on a trouvé la relève.
C'est bon. Non, moi, je me... Enfin, dans... La vie, je m'occupe surtout des animations. Et voilà. C'est tout. Bah, faut le dire. Hein.
Non, mais oui. Mais en même temps, c'est nous qui donnons ce rôle-là aussi.
C'est vrai.
Et t'es forte là-dedans.
Ouais.
Et toi, Oscar ?
Et ben, moi, je suis Oscar et je suis le président de l'association depuis cette année.
Ok. Et voilà. Est-ce que vous voulez bien présenter l'association de la HUT ?
Eh bien, du coup, on est une des plus anciennes associations de la fac des Tanneurs. Ouais. On a des archives qui remontent jusqu'aux années 80, donc c'est quand même pas mal. Notre groupe là, actuel, notre CA, on est en place depuis 2 ans, on a repris l'année dernière. Parce que voilà, il y avait un changement de
bureau,
de génération,
ouais.
et donc on essaye tant bien que mal de faire vivre un peu cette association et cette filière d'histoire.
Ouais, après, j'ai l'impression que comme les années d'avant, ça reste quand même une bonne bande de copains.
Bah ouais, c'est parti de Tanguy, bah, je crois, qui nous a dit venez, on reprend la HUT.
Tanguy, ouais, il nous avait envoyé un message à tous. Puis faut le dire, c'est un peu grâce au week-end d'intégration que la HUT avait fait qu'on est tous potes maintenant.
Ouais, c'est ça, c'est que du coup on se connaît tous à plus ou moins à travers de la HUT, de l'ancienne AUT. Moi j'ai rencontré pas mal de potes grâce à eux, donc ouais, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et donc là, quand il y a eu du coup l'ancienne génération qui est partie, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Et ouais,
comme quoi la chahute ça rassemble.
Bah ouais.
Pour en reparler une deuxième fois, parce que du coup on en avait parlé par rapport à l'association de la chatte.
Ah bah oui, oui.
Le chahut.
Forcément.
Et bah voilà, après la chatte, maintenant c'est la HUT, du coup grâce à vous, c'est le week-end d'antenne.
On est les meilleurs, hein, faut pas se mentir.
Et qu'est-ce que vous avez fait comme projet cette année ?
Alors cette année, on a fait une première soirée d'intégration au Petit Soleil qui s'est plutôt bien passé, il y a eu pas mal de monde. Après, on a essayé de faire une soirée cohésion pour faire parrainage et tout, enfin pour que ça fonctionne un peu, pour qu'ils aient des liens. On a eu un peu moins de monde, mais l'ambiance était plutôt là. Enfin, les gens, ils étaient plutôt cool. Et on a fait un café histoire aussi avec Madame Saugé, c'est une prof en contemporain que tout le monde adore.
C'était sur la maison hantée ?
Ouais, sur les maisons hantées et tout. C'était très, très intéressant. Ouais. Voilà.
On a loupé l'événement, moi j'étais trop déçue, j'avoue.
Ah ouais, ouais.
Pareil.
En même temps, il n'y avait plus trop de place, faut bien s'avouer.
Ouais, c'était bondé. Mais
ouais, c'était bondé.
Vous aviez fait ça où ?
Au Puzzle, à l'étage au-dessus, là, on avait fait ça.
Ouais, super sale.
Ouais, c'est un peu petit pour nous, parce qu'on manquait de place à la fin quand même. Mais franchement, ça... puis le bar était cool. Enfin, ils ont été très gentils de nous accueillir et tout. Voilà, à refaire.
Ouais, à chaque fois, j'ai l'impression que vos thématiques pour les cafés, ouais, ça marche bien. Parce que la maison hantée, l'année dernière, je me souviens que c'était...
Alexandre le Grand avec Monsieur Auchard.
Ouais, et même en amphithéâtre, là, c'était une conférence.
Oui.
Sur une survivante de la Shoah, ouais. Mais ça, c'était différent.
C'est une conférence, c'est pas vraiment un café histoire.
Ouais, café histoire, c'est vraiment le concept de se retrouver dans un bar tranquille. Là, les conférences, c'est plus... On en a d'autres qui arrivent cette année.
La semaine prochaine.
Dans la semaine prochaine. Mais c'est le prochain point. Les prochains.
C'est le prochain point, d'accord.
Et ouais, non, c'est, bah, ça fait aussi partie de, des objectifs de l'asso. C'est pas juste faire une soirée d'inté et des soirées de temps en temps, histoire de faire la fête. C'est aussi, à un moment donné, apporter un petit peu plus et voir des aspects sympas de l'histoire, autre que des profs qui nous parlent pendant 2 heures en CM, quoi.
D'ailleurs, c'est aussi un journal que vous avez, si je ne me trompe pas.
Oui.
Ouais. Bah, du coup, ça fait pareil, ça, ouais, l'année dernière, Maxime, qu'on salue très gentiment, qui
Coucou
nous
Maxime.
A... qui a dit, moi j'ai envie de faire un journal. On lui a dit, bah vas-y, ta carte blanche. Et il a fait 6 ou 7 numéros l'année dernière, il me semble. Et là, on est déjà au deuxième.
Le deuxième va arriver aussi. Ouais, le deuxième, il va arriver.
Ouais, le deuxième va arriver. Et bah voilà, ils gèrent ça très bien. L'année dernière, ils étaient 2. Là, ils sont 2 et l'équipe s'agrandit. Et puis, bah, ils sont bons parce que ça marche, que ça plaît pas mal et qu'eux prennent du plaisir à le faire et ça se ressent.
On a le soutien des profs aussi un peu pour le journal, donc c'est plutôt cool.
Ouais, c'est ça, c'est que
et
les
si
profs.
Si c'est pas indiscret,
valident.
C'est quoi la thématique du prochain journal?
Oh, la sûr, question piège.
Oh, les le regard perdu.
Moi je sais, moi je sais.
Alors Oscar président a fait un regard.
Non, mais c'est normal parce qu'il y a une autre conversation pour le journal et du coup, mais moi je suis
voilà,
sur
cette
conversation.
C'est que c'est une discussion annexe en fait. Mais tu y es toi?
Bah ouais, je suis censée faire les jeux dans le journal, mais je l'ai fait encore.
Vrai,
se
même.
Découvre en même dans la session, c'est terrible. T'es là, toi, Lyon.
Bah mais c'est que ça fait un an qu'elle est censée préparer des jeux pour le journal et que.
Ouais, parce qu'à chaque fois je dis ah, faudrait trop des jeux dans le journal et tout.
Putain, et on a posé une question et là c'est genre conflit d'intérêts, octogone.
Non mais pour répondre à la question, c'est sur le mur de Berlin.
Ah mais oui, mais en plus
le
je suis
mur de Berlin.
Berlin. Je le sais, mais je sais.
Le mur de Berlin, voilà.
D'accord.
Parce que cool. Du coup, bah, c'était les 30 ans il y a 10 jours exactement, et que du coup, ils surfent un peu sur. Le but, c'est de faire des sujets d'actualité, mais pas trop fait non plus, mais enfin voilà. Donc c'est plutôt sympa. Voilà.
Ouais. Mais grave, c'est cool. Sachant que là, du coup, pour le premier semestre, déjà balancer la deuxième édition, c'est bien, c'est que ça avance bien.
Bah, on essaie d'en faire un tous les mois pour l'instant. Octobre, on a commencé en octobre.
Voilà, c'est ça, mais c'est que.
C'est le novembre qui arrive, c'est bon.
Ça prend toujours du temps à démarrer, une fois que c'est lancé, ça ouais. Va, mais bon, c'est. Faut que tout le monde se cadre.
Ouais.
Oui, là, c'était nous qui étions perdus dans nos notes. Du coup, là, c'est nous qui avons reçu les regards accusateurs.
Bah, s'il ne faut pas croire qu'on fait de l'impro à chaque fois, on a quand même des notes. On essaye d'être pro.
Essaye. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres événements à venir?
Bah, du coup, on est à celui de jeudi prochain, le 28 novembre, une conférence sur le génocide au Rwanda.
Ok.
Qui s'est passé. C'est ça?
Oui. Qui s'est passé dans les années 90. Et donc, on a.
Est-ce que vous connaissez votre sujet?
On a
personne n'est au courant de rien dans cette association, c'est quand même terrible.
Alors, c'est à peu près le mot d'ordre. Hein. C'est-à-dire que
c'est
de temps en temps, on découvre. Ouais, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais ça marche.
Ça
marche. Plutôt pas mal.
Les projets se font.
Des fois, il y a des gens qui disent ah ouais, mais ça se passe vraiment comme ça. Ouais. Mais t'étais au courant, toi? Non, non.
Bah, non, mais c'est sympa, c'est l'association Suspense en fait.
Ouais, c'est ouais. Ça.
C'est le mystère.
On sait jamais ce qui peut arriver.
Et du coup, c'est qui fait cette conférence sur le génocide de Rwanda?
Eh ben, il y a un survivant et un membre d'une association qui s'occupe de ça. Et ça, c'est donc un autre Maxime numéro 2. qui gère du coup les grosses conférences, qui s'était déjà occupé de la conférence avec Madame Lévy l'année dernière, qui voilà, qui arrive à contacter des gens comme ça et à dire venez nous parler, et là ça a marché, donc voilà, donc jeudi 28 novembre à 14h.
Et à l'Amphirogé encore...
Mais non,
enfin, non, c'est pas encore sûr.
Il y a encore un point d'interrogation sur la salle. On va essayer d'avoir une plus grande salle.
En vrai, faut pas se mentir, il y a beaucoup de chances que ça soit à l'Amphirogé. Voilà. Même si Madame Sauger a essayé de nous aider pour avoir une plus grande salle. C'est plutôt compliqué à
c'est,
la fac.
C'est compliqué.
Vous arrivez toujours à tenir le mystère jusqu'au bout.
Oui.
Ouais, c'est ça. Ah, c'est oui. ça, c'est ça.
Un jour, on va les retrouver sales.
Sinon, dans les projets, on a 30 places pour une pièce de théâtre
c'est
la semaine prochaine.
Mardi prochain. Le
mardi
26
prochain. Qui sont à des tarifs préférentiels. Donc, on gagne 1 euro par rapport au PCE, ce qui est pas mal. Donc, ça fait 7 euros la place et 6 euros pour les adhérents. De l'association donc, qui gagne 2 euros sur le PCE. Et la pièce s'appelle un nom insupportable et très long.
Mais non, c'est l'homme qui a tué le pire fils de pute du monde, un truc comme ça. Pardon, je sais pas si on doit le dire à la radio.
Si c'est le titre, on peut le dire.
Alors, la très bouleversante confession de l'homme qui a battu le plus grand fils de pute que la Terre ait porté.
Okay. Et bah, c'est génial.
Voilà, donc le nom,
c'est sur Ben Laden et tout. C'est du... voilà. Et c'est à l'Olympia, je sais pas si on l'a dit, mais c'est à l'Olympia.
C'est à l'Olympia la semaine prochaine. Et donc, il y a 30 places en pré-vente. Voilà, ça va être trop cool.
D'accord. Mais d'ailleurs, comment on fait pour vous retrouver? Vous contacter
Tu viens au bocal, au bureau 102.
Salle 102, salle comme on 102. L'a toujours dit.
La fameuse salle 102.
Réel.
La salle 102. Ou sinon, on est présent sur...
Facebook et les réseaux
sociaux,
Insta.
AHUT, ou sur Insta, Historien Tour. Et vous venez, vous posez des questions, et nous, on répond. Il voilà. y a aussi les suites, là, on... On a fait des très très beaux suites cette année. Ils sont en pré-vente jusqu'au mois de décembre. Et il y a toutes nos actualités qui arrivent au fil du temps. On a d'autres conférences de prévues, d'autres cafés histoire, d'autres soirées.
Aucune asso bien active.
Plein de
choses.
Oui,
ouais,
on ouais,
essaie.
Ouais, on essaye. On essaye de garder le cap et de faire des choses pour essayer de faire vivre cet asso qui nous a apporté beaucoup de bons moments. Et,
ouais, puis ça nous tient à cœur parce que... Enfin, comme ça, on rencontre un peu plus d'étudiants, en fait. On ne se cantonne pas juste à notre classe ou à notre amphi. Là, on peut vraiment parler au L1, au L2, au L3, au master. C'est plutôt cool.
Ouais, c'est assez ouvert et c'est plutôt chouette.
Bah ouais. Puis en plus, on a encore plein d'activités qui sont encore cachées. On n'a pas le droit de vous dire.
Il y a des surprises. Il y a des trucs vraiment bien.
Oui.
Il y a des trucs vraiment bien carrés.
Eh bien, si vous aussi, vous êtes aussi ému de ce petit discours de Rachel et excité par les projets que les sont à venir, maintenant, vous savez où les retrouver. Et on vous remercie tous les deux.
Eh bien, merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Du coup, pour le calendrier associatif, du coup, il est plutôt court cette semaine. Demain, vous pouvez retrouver du coup l'association EMF à jouer les tours pour leur soirée de présentation et d'intégration.
Et EMF qui sont donc les étudiants musulmans français.
Ouais, ils sont trop
à Tours
sont
depuis
trop
pas très longtemps.
C'est un mois, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc voilà, c'est leur petite soirée présentation, intégration, tout ça. Donc ça a lieu demain à partir de 20h. Plus de détails, c'est sur la page EMF Tours,
ouais,
du coup sur Facebook. Et sinon, ce soir, au café de Lotrod, place des Joulins, nous avons la formation, enfin plus l'atelier, en fait, sur la création et la diffusion
du journal.
Voilà.
Du
qui
journal
est
de la
fait
Hutte.
En partenariat avec la Hutte, justement, avec Maxime et.
Et Quentin.
Grégory.
Grégory.
Toujours.
C'est à cause de vous aussi.
Et voilà, c'est à partir de 20h. L'atelier sera très ludique, très sympa. Et on terminera du coup avec un petit buffet chaud, genre pizza, truc dans le genre. Histoire d'amadouer les gens.
Parce que manger, c'est cool. Histoire d'amader Chloé.
Ouais. Hein, Chloé
ouais. Bon, bah merci à tous d'être venus pour cette animasso. Et puis à la semaine prochaine.
Merci.
À la semaine prochaine.
It's a hard, hard world. Et de retour dans votre émission Sortez avec Mathilde Landry aujourd'hui. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Alors vous êtes médiatrice culturelle pour la Maison de la BD à Blois. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette Maison de la BD ?
Alors la Maison de la BD, c'est une structure qui a pas trop d'équivalent en fait en France. C'est un projet qui est né à la base... qui est dépendante du festival BD Boom, qui existe depuis maintenant, c'est la 36e année cette année, et qui a été créée pour en fait prolonger les activités qu'on faisait déjà avec le festival et puis le reste de l'année, mais le faire dans un lieu dédié. Donc c'est-à-dire qu'on fait des expositions qui sont visibles toute l'année, donc il y a deux expositions temporaires, ça tourne à peu près tous les 3 mois. Et on a aussi tout un volet pédagogique où on accueille des enfants et puis des plus grands aussi pour découvrir ce que c'est que la bande dessinée, faire des ateliers, faire des rencontres avec des auteurs. Et puis on a une partie aussi de soutien à la création où là on va proposer aux auteurs par exemple d'avoir un lieu pour travailler. Donc on a un atelier d'auteurs à la Maison de la BD qui s'appelle l'atelier Craft. Donc il y a 8 auteurs en tout qui viennent travailler à la Maison de la BD. Et puis on a aussi des résidences, donc les résidences ça permet aux auteurs de venir pour, en général c'est 2-3 mois de résidence, ils ont un projet éditorial et ça leur permet de travailler pendant 2 mois à plein temps sur leur projet perso.
Vous avez parlé d'exposition, vous pouvez nous dire davantage un exemple d'exposition ?
Alors là, elle vient juste de se terminer, mais on avait une exposition un peu patrimoine, ce qui nous arrive régulièrement d'avoir un peu des classiques de bande dessinée qu'on met un peu en avant. Et puis là, en l'occurrence, c'était autour de Bécassine, donc c'est un personnage qui est connu de tous, mais en fait, on ne sait pas forcément les coulisses, on ne connaît pas forcément son histoire, il y a peu de gens qui l'ont lu. Donc là, c'était l'occasion de revenir un peu sur l'histoire de la bande dessinée. Et puis après, c'est aussi en fonction des actualités. Ça peut être des sorties, des choses qui sont récentes, et où on veut mettre un petit peu un coup de projecteur sur le travail d'un artiste.
D'accord. Oui, donc la Maison de la BD, c'est pas un magasin où on va acheter des BD.
Non.
C'est pas du tout ça. C'est pour ça que vous disiez aussi que c'est unique en France, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai qu'il y a... Alors, on parle beaucoup d'Angoulême, dans le milieu de la bande dessinée, parce que c'est une ville qui a vraiment... qui a le festival, et puis qui a tourné un peu son économie autour de ça. Mais c'est vrai qu'en dehors d'Angoulême, il n'y a pas forcément beaucoup de lieux. Alors, il y a quelques résidences ou quelques expositions qui sont faites à droite, à gauche. On a travaillé, par exemple, avec la Maison Fumetti, qui existe à Nantes, qui est une petite structure qui fait aussi de l'atelier d'auteur, etc., des résidences. Mais c'est vrai qu'un lieu comme ça, où on a un peu tous les volets, ça, voilà, de cette envergure-là, ça n'existe pas forcément ailleurs. Donc on est très très fiers d'avoir ça. Ça existe depuis février 2015. Et on essaie de continuer à agrandir la programmation, d'essayer de toucher un maximum de gens, quoi.
Oui, alors 2015, et par contre BD Boom du coup existe depuis bien plus longtemps.
Oui, alors l'association qui gérait le festival depuis 84, l'association a été créée en 84 par des enseignants principalement et des travailleurs sociaux, ce qui donne un peu la couleur aussi de l'association et de BD Boom. En fait, elle gère le festival depuis maintenant 36 ans. Et c'est en fait le fait d'avoir un peu une expertise et un peu une expérience dans ce domaine-là que la ville de Blois nous a proposé de faire un projet de Maison de la BD à l'année. Donc ça s'est créé il y a 4 ans et donc on est hyper content d'avoir comme ça un peu plus de champ pour travailler sur la promotion de la bande dessinée.
Mais complètement. Alors, pour finir sur la Maison de la BD, vous avez parlé aussi d'ateliers pour le jeune ou grand public d'ailleurs.
Oui, alors c'est vrai qu'on a On a deux types, disons, de volets pédagogiques. Il y a mon collègue Sébastien Duforestel s'occupe de toute la partie jeunesse. On accueille beaucoup de scolaires, à peu près, disons, à partir du CP jusqu'au lycée et puis aussi études supérieures. On a des étudiants aussi qui viennent faire des ateliers ou des rencontres. C'est un peu voir au niveau de la technique, c'est-à-dire qu'on a pour beaucoup vu ce que c'est qu'une bande dessinée, déjà lu, mais savoir comment on l'a fait, ça c'est un peu les coulisses et ce qu'on veut faire découvrir, comment on crée par exemple le scénario, toutes les étapes pour arriver jusqu'à la planche finie, comment ça se passe avec les éditeurs, enfin il y a plein de choses à apprendre en fait. Donc ça c'est pour la jeunesse, mais aussi, et là c'est un peu plus mon volet, c'est d'aller aussi vers des publics du champ social. Donc moi je peux travailler avec les centres sociaux, je peux travailler avec des publics qui sont entre guillemets empêchés. On va par exemple faire des rencontres d'auteurs en milieu carcéral, donc c'est toujours des rencontres comme ça assez intéressantes.
Oui, j'avais l'association du coup intervient également en milieu carcéral comme vous avez dit et hospitalier, j'ai lu.
Ouais.
Mais c'est marqué pour contribuer à la cohésion sociale. Mais alors en quoi la BD est un moyen de renouer le lien social?
Bah, pour nous, ça paraît assez évident en fait que ça fait partie de l'ADN de l'association, mais on pense que la culture et puis l'accès comme ça à cette diversité, c'est vraiment ça qui fait qu'on a un côté citoyen en fait. C'est la liberté déjà de connaître cette culture-là. Et puis aussi, je pense par exemple à certains prix qu'on décerne chaque année, on fait un travail avec les classes d'apprentissage de ce que c'est que l'esprit critique. Donc comment est-ce qu'on analyse une bande dessinée, qu'est-ce qu'on aime, comment est-ce qu'on peut un peu décrire et critiquer ce qu'on a en face de soi. Et puis aussi, c'est un apprentissage de la citoyenneté, puisqu'on passe par un vote, que voilà, les enfants, il y a plusieurs écoles en fait qui participent, par exemple au prix Ligue de l'enseignement, qui est pour les primaires du département. Et là, ça apprend vraiment aux enfants ce que c'est que la citoyenneté, défendre son point de vue, argumenter. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est important. Et puis c'est aussi, moi, je vois par exemple pour certains de mes publics un moyen d'expression. Je pense par exemple, moi, je travaille avec quelques personnes handicapées sourdes, pour qui la bande dessinée, c'est aussi un champ qui s'ouvre sur d'autres modes d'expression, et c'est assez intéressant. Je travaille aussi avec des personnes qui ne parlent pas le français et qui apprennent le français, et c'est aussi des moyens de s'exprimer d'une autre façon, quoi. Voilà, c'est vraiment intéressant.
Oui, complètement. Et la BD a souvent été un symbole du livre jeunesse.
Ouais.
Alors, d'après ce que vous me dites là, ce qu'en est-il de nos jours?
Alors, ça reste évidemment un médium qui s'adresse beaucoup à la jeunesse. Je pense même en termes de, disons, de statistiques, les plus grosses ventes, c'est généralement plutôt de la jeunesse. Mais après, il y a une diversité aujourd'hui de bandes dessinées qui fait que tout le monde y trouve son compte. Ça vient, en fait, c'est des stéréotypes. Ça, c'est le genre de choses qu'on entend depuis longtemps, mais ça vient entre autres de la production en revue de la bande dessinée, qui est un peu l'histoire de la bande dessinée qui vient des publications sous forme de journal. Je parlais de Bécassine tout à l'heure, c'est la semaine de 6Z dans laquelle était publiée Bécassine. C'était une des premières revues pour les enfants où il y avait justement de la bande dessinée, parce que le dessin, la couleur, ça attirait les enfants. Et puis en fait, les enfants qui lisaient ces bandes dessinées ont grandi, et je pense par exemple à une revue comme Pilote, qui est voilà une revue assez emblématique de la bande dessinée. On a vu par exemple arriver Astérix et Obélix ou des choses comme ça, et qui ont su grandir avec leur lectorat, et qui ont su comme ça faire une transition vers la bande dessinée adulte et des nouvelles formes de bande dessinée.
Oui, donc il y a plusieurs styles en bande dessinée.
Oui, tout à fait.
Okay. Vous pouvez nous dire les styles représentés, par exemple, cette année?
Il y a énormément de choses. Après, c'est vrai qu'on a les grandes catégories. On va caricaturer un petit peu, mais on a la BD franco-belge, entre guillemets, qui est un peu le berceau de pas mal de styles différents, mais on a la ligne claire, l'équivalent de ce que faisait Hergé avec Tintin, donc ce qu'on appelle la ligne claire. Il y a aussi le style grenet avec les Astérix et Obélix. Ça, c'est un petit peu les caricatures, enfin les classiques. Mais après aussi, on a le manga, donc voilà, un autre côté de la bande dessinée.
Le comics.
Le comics aussi, c'est une... Les États-Unis, il y a eu beaucoup d'échanges avec l'Europe au cours du temps, en fait, des influences d'un côté et de l'autre. Et puis aujourd'hui, enfin, il y a énormément de choses parce que, bah, voilà, le média s'est beaucoup, enfin, démocratisé, donc. Il y a des formes qui sont proches du dessin animé, il y a des formes numériques, il y a vraiment un peu de tout aujourd'hui. Il y a
l'histoire aussi, on peut avoir une espèce aussi de documentation sur l'histoire
tout à fait.
Sur ce support.
Il y a beaucoup de choses au niveau historique. Alors ça a été une grande mode aussi dans les années 80 avec des... chez Glénat par exemple, où ils ont développé des bandes dessinées assez historiques. Mais maintenant, ce qui marche aussi très bien, là on le voit depuis un certain nombre d'années, c'est tout ce qui est vulgarisation sur des sujets soit de société, soit de la vulgarisation scientifique aussi, qui marche très bien. Je pense à Marion Montaigne par exemple, qui fait Tu mourras moins bête. Donc ça, c'est des choses de vulgarisation scientifique et d'anecdotes scientifiques qui marchent très bien en ce moment en bande dessinée.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'évolution de la bande dessinée et de ses techniques aussi? Ce que je me disais, voilà, dans vos ateliers, c'est plus quelqu'un qui dessine toutes ses pages, tout ça. Comment ça a évolué un petit peu?
Alors, on parlait tout à l'heure des revues. Il y a vraiment un changement qui s'est opéré. C'est au niveau de comment les bandes dessinées étaient diffusées. Il y a de moins en moins de revues, hein, de toute façon en général, mais de revues de bandes dessinées. C'est vrai que ça a été le berceau pendant très très longtemps de la bande dessinée. Les auteurs étaient publiés d'abord en revue, et puis quand il y avait un écho auprès du public et que ça marchait bien et qu'il y avait suffisamment de planches, on l'éditait ensuite en album. Et puis, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, le format album, ça a été la publication première. C'est-à-dire qu'on a vu péricliter quelques revues qui marchaient bien à l'époque. Donc il y a une forme de... Ça a fait une différence en fait dans le mode de production. C'est-à-dire que avant, un dessinateur, il sortait ses planches pour que ça soit pré-publié et il espérait que ça sorte en album. Aujourd'hui, on est plus sur des projets vraiment déjà terminés, sur des albums, souvent ce qu'on appelle le roman graphique, qui vont être des albums avec beaucoup de pagination, qui va aller jusqu'à 100-200 pages. Où là, il va y avoir un propos assez personnel. Il y a des lignes éditoriales très différentes, ce qui était moins le cas. Et puis au niveau technique aussi, le fait de pouvoir aujourd'hui travailler en numérique, alors c'est pas forcément plus simple que de travailler à la main. Ça dépend vraiment de la technique du dessinateur. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de dessinateurs qui travaillent de cette manière-là.
Plus rapide peut-être aussi, peut-être même pas en fait.
Ça permet, je sais pas si c'est plus rapide parce qu'il faut quand même s'approprier l'outil, hein. C'est quand même un apprentissage. Nous on le fait à la Maison de la BD, on fait des ateliers numériques d'ailleurs là pour le festival il y aura 3 jours d'ateliers numériques ouverts pour les gens qui veulent s'initier, qui veulent tester. Mais c'est vrai que ça demande un apprentissage. Après c'est plus dans le détail, en gros, de pouvoir revenir dessus, de pouvoir modifier, qu'on n'ait plus à passer par pas mal d'étapes qui étaient de scanner les planches chez un imprimeur, etc. Ça permet de gagner en temps, effectivement.
Complètement. Que pensez-vous de la place de la BD en France? On a beaucoup d'écrivains, est-ce qu'on est bien représenté en quelque sorte?
La BD se porte pas trop mal, hein. Là, ces dernières années, l'économie de la bande dessinée marche plutôt bien. C'est même un des secteurs qui s'en sort plutôt bien par rapport au reste de l'économie du livre. Après, c'est vrai que la France, c'est un lieu où, enfin, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une tradition de la bande dessinée. C'est vrai que il y a de grands auteurs qui sont français, qui ont été français. Donc en France, il y a une tradition, il y a une histoire de la bande dessinée, et puis il y a des maisons d'édition, il y a voilà, les structures qui permettent d'éditer. Moi, j'ai un peu voyagé et c'est vrai qu'en Europe, on est un des pays, avec la Belgique évidemment, la France et la Belgique, c'est les terres de la bande dessinée. Il y a une vraie implantation de la bande dessinée. Ouais.
D'accord. Alors, pour finir sur cette première partie, on aurait aimé savoir un peu ce que vous aimez dans la bande dessinée. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce que vous aimez et est-ce que vous en écrivez, vous?
C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai été formée en bande dessinée alors à Angoulême. Donc, j'ai fait une formation là-bas, qui était une formation pratique. Mais je crois que ce qui me motivait dès le début, c'est comme tous les enfants qui ont été marqués par, en fait, par certaines bandes dessinées, c'est le fait de découvrir comme ça des histoires, d'avoir tout cet imaginaire là, très très jeune en fait, ça touche les enfants. Je pense que le dessin, c'est quelque chose d'assez spontané chez les enfants. D'ailleurs, on le perd au fur et à mesure.
Oui, carrément.
On le perd à un certain âge, mais on le voit vraiment à partir du moment où voilà, on a un peu le regard de l'autre qui fait qu'on perd un peu ses moyens. Mais il y a quasiment tous les enfants ont dessiné. On sont passés d'abord par le dessin avant même de parfois écrire. Enfin, et donc, il y a un côté instantané assez, assez fort, et je crois que c'est... Après, c'est des rencontres aussi, soit des rencontres avec des professionnels. C'est pour ça qu'on trouve important de faire rencontrer les auteurs, que les enfants puissent voir qu'il y a une personne derrière cette bande dessinée, derrière ces histoires, que c'est vraiment quelqu'un qui raconte. Et puis, je crois que, de toute façon, la rencontre aussi avec une œuvre, découvrir un style qui nous plaît, que ce soit le manga, que ce soit les super-héros, c'est tout de suite assez marquant. Mmh. Donc je crois que c'est ça qui nous anime.
Et vous, c'est quoi votre style préféré?
Il
y en a plein.
C'est dur de répondre parce que je pense que je suis passée par toutes les phases.
Okay.
En fait, plus je travaille dans la bande dessinée et plus je découvre de nouvelles choses. Et je suis toujours assez éblouie. Là, on est en train de travailler sur l'exposition Emmanuel Lepage, qui a un travail de couleurs magnifique. Et voir les planches, c'est une surprise. Alors que moi, je connais son travail depuis un certain temps. Mais là, c'est une grosse claque de voir ses planches en vrai. Donc c'est toujours des découvertes, tout le temps.
Vous écrivez, vous en faites des bandes?
Alors, ouais, on est plusieurs dans l'équipe de la maison de la BD à en faire un peu. Là, moi, j'ai publié un premier album sur Blois, qui est sorti aux éditions Petit à Petit. J'ai fait un des chapitres, on est plusieurs dessinateurs à avoir travaillé là-dessus. Et puis, j'en prépare un normalement dans quelques temps, quelques
bien.
Mois.
Vous voulez nous parler un petit peu de ces projets? De quoi ça va parler? Qu'est-ce que...
Ah, c'est encore dans les...
C'est
okay. Encore dans les dossiers.
D'accord, très bien. Merci beaucoup Mathilde. Et puis après cette courte pause musicale, on parlera du festival.
Ok.
Et on va partir sur, comme d'habitude, en début de semaine, on passe du Orelsan avec Des fêtes de famille.
Je veux dire... Hey, rappeur de la famille, il nous ferait-il pas un petit rap?
Non.
Ok. Ok.
Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec bourré préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les blagues de cul des parents, je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux.
pardon. Mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron. Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion, me regardait porter des cartons en tripotant ma frangine toutes les 3 secondes. Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms. Parce que tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton. Tonton, si tu continues de faire yo-yo avec les doigts, chaque fois que tu passes à côté de moi, tu les utiliseras pour la dernière fois. Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit et tu m'as secoué comme une pute. Si tu tenais à tes rétros, pourquoi tu t'es garé derrière le but? En parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno. Si Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point son prochain raco. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. Je sais pas. Message à tous mes lointains cousins, venez on arrête de faire copain-copain. Parce qu'un ancêtre, on sait pas qui c'est, et la seule chose qu'on a en commun, un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages et piller des baraques. À peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc. D'ailleurs papy, raconte-nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler. T'as jamais été un héros, t'étais même pas un bon mytho. Mon héros c'était toi Nico. Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre colle un peu bonne, t'es juste un vrai beauf comme les autres. Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo pour alimenter tes réseaux sociaux. Profiter d'être avec quelques prolos pour pouvoir encore plus jouer les bobos. Polo, si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués, en utilisant beaucoup trop wesh pour un blondinet. Vu que ton père a un problème avec les Arabes, c'est une très belle ironie. Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme. J'espère que Tati va bien attacher les mots, parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome. J'avais plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos gueules d'enculés bouffis, j'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine.
Eh bien, toujours en compagnie de Mathilde sur Radio Campus pour vous présenter le BD Boom. Alors, du coup, prochaine question pour Mathilde. BD Boom, du coup, cette année, quand on arrive sur place, à quoi le... Enfin, celui qui va venir va avoir droit? Comment ça va se passer un petit
Alors
peu?
Déjà, je précise que c'est un festival gratuit, hein, donc pas besoin de payer son entrée. Hein, c'est faut s'armer un peu de patience et puis faut, voilà. Et c'est un des plus gros festivals gratuits en fait en France. C'est le plus gros festival gratuit. C'est un des plus gros festivals après Angoulême et après Saint-Malo, et c'est le plus gros festival gratuit en France.
Ok.
Donc sur le salon, on va avoir plein de choses à voir. Alors un petit peu à l'image de ce qu'on fait à la Maison de la BD à l'année, il y a plusieurs lieux. D'abord une partie un peu historique du festival, ça se passe à la Halle aux Grains, donc la scène nationale de Blois. Juste à côté de la Halle aux Grains, on a un grand chapiteau où on accueille des stands de petites maisons d'édition, de collectifs aussi d'auteurs, et puis des libraires aussi qui viennent présenter. Et donc il y aura sur le salon des auteurs qui seront là pour dédicacer. En tout cette année, si je vous dis pas de bêtises, on est autour de 240 auteurs.
Ah mais c'est énorme.
Ouais, c'est assez énorme. Qui seront là en dédicace, qui seront là pour présenter les dernières nouveautés. Donc vraiment, on cale avec l'actualité de la BD. On aura aussi des expos dans cette partie du festival. Une expo autour de la collection Noctambule. C'est une collection qui a 10 ans cette année. Donc c'est une collection qui est assez axée sur le côté littéraire. Donc soit c'est des adaptations de par exemple de livres de Jack London ou d'autres auteurs, soit c'est de la bande dessinée mais qui a un côté un peu romanesque. Donc on a plein d'auteurs qui ont travaillé dans cette collection, et là ça va être des planches assez belles. On aura du David B, on aura du Riff Reps, hein, plein d'auteurs différents. Donc ça, c'est à découvrir dans la Halle aux Grains. Il y aura aussi une exposition de François Bouc, qui est un grand auteur de BD, qui a une carrière longue derrière lui, et qui sort un nouveau bouquin là sur son personnage de Jérôme Mouchereau. Donc sur ceux qui connaissent pas, faut aller découvrir. Il y aura des expositions jeunesse aussi, une exposition sur les enfants de la résistance, qui est une petite série jeunesse historique. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? On aura à la bibliothèque Abbé Grégoire, juste à côté en fait, une exposition aussi du prix Ligue de l'enseignement, donc le prix des enfants de primaire qui ont décerné l'année dernière le prix à l'album La boîte à musique. Donc un album dessiné par un jeune auteur, Gigé, donc on sait, si je ne dis pas de bêtises, la première BD. Et donc ça, c'est une histoire un peu fantastique, ça va bien plaire aux enfants. Il y aura aussi un autre album de Pascal Rabaté qui s'appelle La Déconfiture, qui est un album un peu historique. Ça sera aussi à la bibliothèque, où on pourra voir l'exposition. Et puis on va faire un petit peu un panorama aussi de la du western italien, parce qu'on connaît beaucoup le western italien en cinéma, et il y a eu toute une vague de western italien aussi en bande dessinée. Donc des auteurs italiens comme Toppi par exemple, qui ont fait des albums sur le western. Donc on est plus sur une exposition un peu patrimoine où on va découvrir toute une vague de bande dessinée. Donc ça, c'est sur le haut du festival. Il y aura des projections au cinéma juste en face, au cinéma Les Lobis. Et puis, il y a une partie aussi à la Maison de la BD, donc là plus auprès près du bord de Loire. Et là, on aura l'exposition du Grand Boom Ville de Blois. C'est le grand prix qui est donné chaque année pour un auteur pour l'ensemble de sa carrière. Donc là, cette année, l'exposition sera consacrée à Emmanuel Lepage. Donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure, ce sera des belles planches, enfin, c'est vraiment, il a un travail de la couleur à l'encre, aux aquarelles, avec vraiment une technique très particulière, c'est magnifique, vraiment, je vous invite à aller voir cette exposition. Et puis on aura aussi une série que les jeunes et les un peu moins jeunes peuvent connaître parce qu'il a touché plusieurs générations, c'est Léonard, la série de bande dessinée, c'est une parodie de Léonard de Vinci. Donc ceux qui connaissent Léonard et son disciple, c'est une série humoristique qui doit avoir 44 ans cette année, si je ne dis pas de bêtises. Et qui marche toujours très bien auprès des jeunes. Donc il y aura des ateliers, il y aura pas mal de choses, des rencontres aussi d'auteurs, des projections de films, de documentaires, des spectacles, voilà.
Des spectacles.
Énormément de choses.
Ok, c'est des spectacles, c'est, vous entendez quoi ?
Alors, en spectacle, on a chaque année, en fait, on fait des spectacles avec, je parlais tout à l'heure du prix Ligue de l'enseignement. En général, on met en scène, en fait, des bandes dessinées. C'est-à-dire qu'il y a une troupe de théâtre avec des comédiens qui rejouent certaines scènes de la bande dessinée. Et en parallèle, pendant que les comédiens sont sur scène et jouent les personnages, le dessinateur ou la dessinatrice dessine en direct et s'est projeté en fait en parallèle. Donc il y a un côté un peu... on connaît aussi pas mal le concept de concert dessiné, ça marche très bien aussi dans les festivals. C'est un petit peu le même genre, c'est un spectacle dessiné.
D'accord. Et donc ça, ce sera quel jour ?
Alors ça sera le samedi à 15h, si je ne dis pas de bêtises. Toute la programmation est sur notre site internet. Pour les enfants, pour les plus âgés aussi, il y a plein de choses au niveau rencontres. Donc ça, c'est sur notre site, c'est maisondelabd.com ou bdboom.com. Vous D'accord. arrivez sur le site avec okay. toute la programmation.
Alors, rencontre avec 240 artistes, du coup ?
C'est ça.
Alors, comment ça se passe, une rencontre ? C'est-à-dire que cet écrivain est là et on peut lui poser les questions qu'on veut, tout ça, et le rencontrer, en fait.
Alors, sur les dédicaces, vous allez avoir une programmation avec des horaires de dédicaces. Les auteurs seront présents sur leur stand, soit sur les libraires, soit sur les exposants. Et en fait, ils sont là pour dédicacer leurs livres. Ça permet de repartir avec un petit dessin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ça permet d'avoir un petit temps d'échange aussi avec l'auteur, de pouvoir lui poser des questions, lui faire des retours sur son album. Et puis après, on a aussi des temps plus de conférences ou des cafés littéraires où on va aborder avec les auteurs une thématique. Je pense par exemple avec Emmanuel Lepage qui a fait un album qui s'appelle Un printemps à Tchernobyl, où il a fait un reportage en fait dessiné de son voyage à Tchernobyl sur les lieux qui avaient été contaminés. Et il a fait plusieurs années plus tard une courte bande dessinée pour la revue dessinée sur Fukushima. Donc on a proposé en fait de faire une rencontre autour de la thématique de la radioactivité et de comment on vit dans un monde contaminé. Et là, pour le coup, on a invité une chercheuse du CNRS, Sophie Houdard, qui travaille sur ce sujet-là, plus précisément sur la question au Japon, et qui va échanger avec Emmanuel Lepage sur cette thématique-là. Donc là, on est sur un thème assez précis. On a un temps en fait où on peut discuter avec les auteurs, poser des questions. Il y a souvent une petite dédicace après. Donc c'est assez intéressant de voir les coulisses, quoi.
Complètement. Vous aviez dit, voilà, on peut l'auteur nous faire un petit dessin de dédicace. Ouais. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tous les auteurs sont aussi dessinateurs, ou est-ce qu'on peut se séparer le travail en bande dessinée?
Effectivement, c'est un peu comme ça nous semble évident pour le cinéma que c'est une équipe, que le réalisateur est pas seul sur un plateau de tournage. En bande dessinée, c'est vrai que c'est souvent le cas de travailler en équipe. On peut avoir plusieurs rôles en fait. Ça peut être déjà inventer l'histoire qu'on appelle le scénario, comme au cinéma d'ailleurs. Donc là, ça peut être un ou une scénariste qui crée, qui invente l'histoire, voilà, les épisodes, et qui doit le retranscrire sous forme de script pour que un ou une dessinateur ou dessinatrice le mette en image. Donc là, c'est tout le travail vraiment de composition de la planche, de trouver une technique qui permet de donner une ambiance, etc. Donc ça, c'est vraiment mettre en image le point de vue du scénariste. Et ensuite, on peut avoir aussi parfois une personne qui fait les couleurs. Donc on peut avoir des coloristes aussi qui travaillent sur l'album. Et puis évidemment, l'éditeur qui va chapeauter un petit peu la production et qui va pouvoir donner son avis. Donc ça peut être un travail vraiment d'équipe. Il y a aussi de plus en plus d'auteurs qui travaillent seuls et qui prennent toutes les casquettes. Mais ça leur demande aussi du temps. Mais ça dépend vraiment des collaborations. Il y a des collaborations, il y a des auteurs qui travaillent toujours avec les mêmes scénaristes. Ça dépend vraiment.
Alors, très intéressant, parce que du coup, vous venez de dépeindre un peu les différents rôles pour créer une bande dessinée. Et du coup, on se demandait comment vous donnez des prix, lors de ce festival.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces différents prix et puis un petit peu comment est-ce qu'on juge de la qualité d'une bande dessinée?
C'est une bonne question. C'est difficile de répondre au niveau des critères. Parce que après ça dépend un peu de la sensibilité aussi, mais au niveau des prix, en tout cas on a des prix qui récompensent divers aspects en fait de la production de bande dessinée. Pour le grand boom, c'est récompenser l'ensemble d'une carrière. Emmanuel Lepage, c'est un auteur qui a de la bouteille, qui a un travail à la fois de fiction et un travail aussi documentaire. Je parlais de Tchernobyl tout à l'heure. C'est récompenser en fait un travail qui a marqué l'histoire de la bande dessinée. Et c'est mettre en avant cet auteur-là, faire une rétrospective, faire connaître parfois à un grand public qui ne connaissait pas forcément le travail de Lepage ou pas tout le travail de Lepage. C'est vraiment récompenser comme ça, rendre hommage. Et puis après, sur différents prix, ça peut être aussi soutenir les jeunes auteurs. Je pense à la bourse Tremplin qui existe depuis l'année dernière, qui est une bourse pour les jeunes auteurs de moins de 30 ans qui ont publié jusqu'à un album chez un éditeur. Donc c'est vraiment des débuts de carrière là qu'on récompense. On essaie de donner un petit coup de pouce parce qu'on sait que le statut d'auteur est parfois un peu précaire et difficile. Et c'est le moyen de soutenir comme ça les jeunes auteurs. Ça peut être aussi récompensé, on parlait du scénariste, récompenser l'aspect scénario. Donc ça, c'est le prix Jacques Loeb, par exemple, qui est décerné chaque année à une personne qui fait du scénario en bande dessinée. Donc là, c'est un aspect du travail d'auteur de bande dessinée. Et puis après, ça dépend aussi, par exemple, du public. On a des prix jeunesse pour les primaires et pour les collèges. On a des prix aussi pour les auteurs en local, on a le prix région. Il y a différents aspects et différents critères. Et pour juger de la qualité, on se rassemble, on lit les bandes dessinées, on en discute. Il y a toujours un comité, disons, de remise des prix, donc qui est généralement fait avec des représentants de BD Boom, des représentants des partenaires qu'on a, la région, le conseil départemental, etc., la caisse d'épargne, et aussi souvent des personnes qui sont soit critiques de bande dessinée, soit journalistes de bande dessinée.
Mmh. Très bien. Eh bien, merci Mathilde. Avant, un petit quiz sur la BD, mais promis, ça va vraiment être pas très compliqué, hein, je pense. Enfin, pour vous, en tout cas, ça c'est sûr. Une petite musique avant ça.
On va partir avec La Secte Phonétique et Bienvenue dans la Secte.
Que tu sois une meuf, que tu sois peace, que tu sois ref, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois athée, que tu sois pieux, que tu sois manchot, que tu sois gaucher, que tu sois blindé ou toujours fauché, que tu sois de spi ou jamais pressé, que tu sois un flic, que tu te sois fait serrer, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois dans les temps ou toujours en retard, que tu sois queuse, que tu sois roux, que tu sois chaud, que tu sois blond, que tu sois une caille ou un bobo, que tu sois homo ou encore plus sourd, que tu sois maniaque ou bordélique, que tu sois toujours sobre ou alcoolique, que tu sois un nain ou bien une perche, que tu sois de torse ou t'es toujours la pêche, que tu sois timide ou un tchatcheur, que tu sois patron, que tu sois chômeur,
que tu sois sportif ou que tu fumes le bédo, que t'es fait longue étude, que tu sois sans diplôme, que t'aimes être peinard ou que t'aimes faire la fête,
je te souhaite comme on dit la bienvenue dans la secte.
Bonjour les âmes, grand sorcier, rap et beatbox c'est toute la journée. Déjouer l'âme, vandalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte.
Dans ma secte, pas d'inceste, pas d'insectes, pas de couleuvre à avaler, notre aspect intrinsèque, peut-être vous inquiète, mais les couleurs vont cavaler sur les murs de vos tympans. Donc oyez, oyez brave, j'envoyais l'étrange contingent de ceux qui hurlent avec les dents. C'est la secte phonétique, hystérique comme à Paris, la nuit brisant le silence, les sirènes de la République. Pas de trip apocalyptique, on ne se plie qu'aux tortures poétiques. Fétichiste amoureux de la langue bouleuse par grand vent, langoureuse égoulue quand le temps est changeant. En guerre contre la bêtise, contre l'analphabétisme qui paralyse et réprime les énergies créatives. Pas de mythes épiques ni de livres dictant l'art de vivre, mais un disque disponible, accessible à tout esprit libre.
Jouer les âmes, grandis, sorciers, rap et beatbox c'est toute la journée. Déjouer l'âme, vandalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte.
Hippo, hippipoli, rigolo, mpipoli, a mis du tempo aussi à bil au pipopolissa. Foligère, solitaire, solide, fière. Nouvel adepte de la secte, afin de l'être, il a dû faire preuve de sang-froid durant des épreuves, sans effroi plongé dans ses fleuves pour draguer des piranhas, veuve plus flippante que Fantomas. Il a dû boire toute l'eau d'un lac, chercher des œufs sur l'île de Pâques, fermer les yeux face aux cieux dans l'espoir facétieux de recevoir une bise ou une claque. Attraper la jaunisse, la lèpre, la chaude pisse, la peste, et mater les téléfilms suisses à Budapest, ainsi à libérer des instincts primaires emmurés dans sa chair sans suer de sang, sincèrement sans se censurer.
Très compétent,
hippocampétant, encore vivant, est enivrant, te délivrant vite. Il fait désormais partie de la secte phonétique. Dites merci pour ce récit de son parcours initiatique.
Bonjour les âmes, grandis, sorciers, rap et beatbox c'est toute la journée. Déjouer l'âme, vandalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte.
Eh bien, de retour dans votre émission. Sortez. Alors, pour finir avec Mathilde, du coup, on va juste rigoler un petit peu et faire un petit quiz, comme ça. Puis après, on vous rappellera les dates et les infos pratiques pour le festival. Alors, Mathilde, est-ce que vous êtes prête?
J'espère que ça va aller.
Normalement, c'est vraiment...
Je vais savoir répondre.
Alors, bon, première question. Quel personnage fut créé par Hugo Pratt en 1967?
Alors moi, ça me dirait bien un Corto Maltese.
Et c'est bien ça.
Moi, ça m'aimerait bien.
Avant de faire le quiz, je ne la connaissais pas, cette réponse. Bon. Oui, c'est trop. Deuxième question. Comment appelle-t-on couramment une bande dessinée américaine?
Un comics.
C'est bien ça, bravo. Quel auteur a créé Tintin et Milou?
Ah, bah ça, c'est Hergé.
Hergé. Enfin,
son vrai nom.
Ah, voilà. Là, c'est le point complet.
Parce que Hergé, c'est le pseudonyme.
Exactement.
Georges Rémy.
Pfff. Bien joué. Qui est le dieu. Peut-être un petit peu plus compliqué, celle-là, mais. Enfin, qui est le dieu du manga, auteur de 700 œuvres, dont Astro Boy, Le Roi Léo et Bouddha?
Osamu Tezuka.
Waouh. Osamu Tezuka. C'est bien ça. Par quoi sont entourées les paroles dites par un personnage de bande dessinée?
Alors, ça porte plusieurs noms. On appelle ça des bulles, mais le nom un petit peu savant, c'est le phylactère.
Exactement, le phylactère. Quel personnage... Non, celle-là, elle est trop facile, je peux pas... Bon, Chloé, alors, parce voilà. Que là, c'est vraiment pas possible.
C'était quoi?
Quel personnage emploie la devise « Ils sont fous, cerveau » ?»
Ah, ça va.
Ouais, c'est... mais non, il faut peut-être pas abuser. En plus, j'étais là quand tu l'as rédigé.
Bon, ok, bon.
Bon, bah, chers auditeurs,
ouais, ça doit être
bien joué.
Dernière question, et pas des moindres, dans quelle ville française se trouve le grand festival BD Boom?
Ah, bah, Blois.
C'est
évidemment.
Ça, c'est Blois. Et c'est quelle date d'ailleurs?
C'est du 22 au 24 novembre.
Super. Et on peut vous retrouver sur internet pour la programmation?
Oui, www.bdboom.com ou maisondelabd.com.
Voilà.
Et sur Facebook, on a pas mal d'actu. Et sur Instagram.
Ah, vous y êtes
et
mis.
Oui.
Instagram, bah, c'est
moderne.
Très bien. Merci beaucoup Mathilde d'avoir participé à l'émission.
Et là, c'est moi. Ouh, j'avais pas allumé mon micro, mais là, c'est moi qui vais reprendre justement ce micro. Et parce que ça va être du coup l'heure de l'agenda. What you gonna do now? Et comme tous les mardis depuis un petit moment déjà, c'est le beer pong. Pour rappel, les inscriptions se font au bar de 18h à 21h. À 21h, c'est donc le début du match, c'est logique. Et comme d'habitude, c'est à l'Outback Bar de 18h à 23h. Ce soir, vous avez aussi rendez-vous pour un ciné-débat. Avec le titre « Un médium peut-il offrir ?». Le documentaire est suivi d'un débat avec vous et le médium Misha Hermeijer, réalisateur du documentaire lui-même. C'est donc ce soir de 19h30 à 22h15 au CGRD de Lyon. Ça vous dit un concert de jazz, blues, mambo? Il est donc fait pour vous. Rendez-vous avec Rocking Chair ce soir de 20h à 22h au Kubrick, 15 rue du Change. Et on passe tout de suite, à, comme d'habitude maintenant, l'agenda des marchés. Donc on commence avec ceux de Tours, avec ceux de Place Cottier et le quartier des Fontaines de 8h à 13h. Nous avons aussi le marché de Saint-Pierre-des-Corps, ce sera place Toré, de 6h à 13h. Celui de Saint-Avertin, place Tenbach, de 8h à 13h. Celui de Jouer-les-Tours, place de la République, de 9h à midi. Celui de Fondette, rue de l'Aubrière, de 8h à 13h. Celui de Maitrey, rue du Vieux-Calvaire, 8h à 13h. Celui de Mons, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. C'est place de la Fontaine de 8h à midi. Marché de Saint-Branche, c'est pareil, je ne sais pas le prononcer. C'est place du 8 mai 45 de 8h à 13h. Et on termine avec le marché de Nazel-Négron, rue du Commerce, de 9h à midi. C'est tout pour cet agenda du soir. Il ne me reste à moi plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire de bien vous amuser comme d'habitude. Ça va être l'heure du flash RFI à 18h. 18h15, comme d'habitude, rendez-vous avec Ghetto Blaster. demain matin de 6h à 7h, rediffusion de cette émission, que vous pourrez aussi retrouver dès ce soir en podcast sur toutes les plateformes de la radio, le Facebook et le site.
Radio Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.